Donc là, ça y est, on avance qu'avec le vent. On a enlevé le moteur et c'est le vent qui nous permet de remonter le courant. On peut un peu toucher du doigt la façon dont naviguaient les mariniers avant, c'est-à-dire avant l'arrivée du moteur, qui a drastiquement changé nos manières de se déplacer et d'envisager la temporalité aussi. Donc, quand on naviguait avec le vent, eh bien, on savait à peu près quand on partait, mais on ne savait jamais quand est-ce qu'on arrivait. Quand on navigue à la voile, en fait, on est obligé de se mettre à la vitesse du fleuve, à la vitesse du milieu, et on fait avec, et c'est ce que je trouve génial dans la pratique de la voile. Tu dois réagir quand même, tu dois agir, tu dois comprendre ce qui se passe autour de toi, mais il y a certaines choses sur lesquelles t'as plus la main. Donc il faut embarquer. Je m'appelle Romane, j'ai 24 ans, je suis guide pilote et animatrice, plutôt sur le milieu ligérien. Je pilote des bateaux d'inspiration traditionnelle de Loire, donc bateaux à fond plat, voile carrée, et je navigue principalement en ce moment en Touraine. Ici, on se trouve à Rochecorbon. Rochecorbon, c'est une commune en rive droite, donc au nord de la Loire. On a quelques traces de l'être humain, mais on est quand même dans cet écrin de nature, cette diversité de paysages, en tout cas cette diversité de milieux qu'on trouve sur la Loire, qui est aussi liée à l'irrégularité en fait de la topographie. C'est-à-dire qu'à certains endroits, comme sur notre gauche par exemple, on est sur une zone de dépôt des sédiments. Et ici, on a un banc de sable, ce qui serait plutôt propice à l'installation, à la nidification d'un oiseau qu'on appelle la sterne, qui a besoin, elle, d'un banc de sable dans lequel elle va pondre ses œufs directement. C'est un oiseau qui ne fait pas de nid, donc n'aura pas besoin de ce qu'on voit, par exemple, à droite. À droite, on est sur une île qui est assez haute, qui dépasse là de la surface de l'eau de 2 mètres 53 mètres. Une île qui a au moins 400 ans. Et si on regarde, en fait, on a une végétation qui est plus diverse en termes d'essence d'arbres que les berges, que la ripisylve. Parce que cette île, elle est plus haute, donc elle est moins balayée par le courant, moins balayée par les eaux. Et donc, en fait, les arbres ont le temps de s'installer. Les graines ont le temps de s'établir, de grandir et de devenir chênes, ormes, frênes. Alors que dans la ripisylve, ou même sur les îles beaucoup plus basses, les arbres ont les racines dans l'eau. Et donc là, on a les essences qui apprécient avoir les pieds dans l'eau, à savoir plutôt le peuplier et le saule. Et c'est ça qui m'intéresse en fait, c'est par la pratique de la voile, être en capacité de comprendre l'environnement et le milieu qui t'entoure, et de comprendre quel impact va avoir un arbre à un endroit, et en fait est-ce qu'il a un impact ou pas, est-ce que le caillou qu'on va voir sur notre droite, il va aussi avoir un impact sur la navigation. Et c'est ça en fait que je trouve, en tout cas qui moi m'anime dans ma pratique de la navigation, à la fois en Loire mais aussi en mer, c'est d'avoir cet accès à la compréhension des éléments pour comprendre moi aussi comment fonctionner avec. Pour naviguer ici, en fait, on est obligé de faire attention à la surface de l'eau. C'est d'ailleurs comme ça qu'on se repère, parce qu'en fait, là, on est sur une portion de la Loire qui n'est pas classée par les voies navigables de France. Donc, on n'a aucun balisage ni aucun entretien particulier qui est fait pour la navigation. Donc, pour se repérer, on est obligé d'avoir cette attention constante et la surface de l'eau, que ce soit avec les variations de couleurs. Voilà, si on a une eau qui est plus sombre, c'est-à-dire qu'a priori, il y a plus de fond à cet endroit-là, là où ça va être plus clair, c'est que probablement il y a un banc de sable assez proche, donc on va essayer d'éviter ces endroits. Mais on a aussi la surface de l'eau par les remous, les frisottis qu'on peut apercevoir, qui nous donnent des indications. Un peu plus bas, là, en sortant du port, on a plusieurs endroits où on a des gros remous, parce qu'on a des troncs qui sont venus se loger durant le printemps, parce qu'on a eu une montée des eaux, qui a permis à ces troncs d'être charriés par le courant. Et en fait, il faut qu'on fasse hyper attention à ça, d'autant plus qu'en ce moment, les niveaux sont en train de redescendre. Donc on a des obstacles encore plus près de la surface de l'eau. Ce qui me plaît, c'est qu'on peut utiliser ces bateaux de différentes manières. On est à la voile, mais on peut utiliser la bourde, qui est cette grande perche qu'on plante dans le fond de la Loire. Et moi, c'est ce qui me plaît, c'est de pouvoir me déplacer dans un milieu en ayant le moins d'impact possible, et à savoir en ayant la possibilité d'utiliser un autre moyen de propulsion que le moteur. Salut Michel! Salut!
La Loire, elle est balisée là jusqu'à Saumur et au-dessus, elle est plus balisée. Donc là, c'est un peu plus compliqué de naviguer, surtout quand il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc il faut avoir une certaine habitude, il faut avoir une certaine connaissance. Bon, ça s'apprend, mais c'est pas simple. Je m'appelle Patrick Leclève, je navigue sur des bateaux traditionnels de la Loire qui étaient utilisés pour transporter les animaux, les foins, les roseaux. Donc on navigue à la voile. Et éventuellement aussi avec des avirons en se cédant avec les marées. Pour naviguer sur la Loire, l'idéal c'est les bateaux à fond plat, puisque c'est des bateaux qui calent très peu d'eau, donc avec ces bateaux nous pouvons passer dans des hauts fonds. Ces bateaux calent 50 cm, c'est à peu près tout quand ils ne sont pas en charge. Et à la voile, il faut quand même que le vent soit dans la direction contraire à celle que nous voulons emprunter. En plus que c'est des bateaux qui sont équipés de voiles, mais ce ne sont pas des voiliers, donc ils ne peuvent pas remonter au vent, comme on le fait avec des bateaux qui ont des dérives ou des quilles. Donc il faut des vents portants. Alors on peut naviguer vent de travers, ou vent trois quarts, ou vent arrière. Mais dès que ça dépasse le vent de travers, et encore c'est un peu limite parce que ça dérive énormément, nous ne pouvons plus naviguer. Donc on est sur la Loire, là, on est rendu du côté de Mauves, nous sommes partis de bonne heure en fin de matinée, et nous avons remonté la Loire jusqu'à Mauves, ça se trouve un petit peu en amont de Nantes. Il faut savoir qu'il y a des ponts. Autrefois, il n'y avait presque pas de ponts. Et il faut faire attention aux ponts parce que nos mâts ne passent pas sous les ponts. Donc, il faut affaler la voile, il faut affaler le mât. Il y a aussi les lignes à haute tension qui, des fois, traversent la Loire qui ne sont pas très hautes. Alors là, c'est encore aussi un autre danger, même plus que les ponts. Il ne faut pas taper dedans parce que sur un bateau qui fait 100 mètres carrés de voile ou 120 mètres carrés, on a des mâts qui arrivent à 12, 13, 14 mètres. Quoi. Donc, ça fait quand même une belle hauteur.
C'est un fleuve qui a la particularité d'être alimenté par plusieurs bassins versants, des rivières qui viennent du Massif central, par exemple. On dit parfois que la Loire est le dernier fleuve sauvage d'Europe. Alors, c'est une affirmation qui a un caractère spectaculaire. Il y a plusieurs arguments qui peuvent être avancés. D'abord, l'aspect sauvage qui peut être évoqué par le fait que c'est un fleuve qui a de très fortes variations de débit dans l'année, qui peuvent gêner la navigation, qui s'est manifesté également par des crues dévastatrices par le passé. Le caractère sauvage doit être nuancé, même si par la diversité des régions traversées, il y a également une grande diversité biologique. Je suis Bruno Commental, géomorphologue, enseignant-chercheur à l'Université de Nantes. Cette section aval de la Loire, alors que l'on peut même différencier entre la section engênante d'une part et la section de l'estuaire à partir de Nantes, est différente des sections d'amont, d'une part par la pente, le régime fluvial, qui est un régime torrentiel lorsque la Loire parcourt le massif central. La Loire aval, elle, transporte essentiellement des sables et des limons. La section qui est comprise entre Angers et l'estuaire se différencie également par le type de relief traversé, puisque c'est à partir d'Angers que la Loire force le massif armoricain, traverse le massif armoricain. Dans cette partie, elle est orientée globalement d'est en ouest. Alors plus particulièrement entre Angers et Nantes, elle est plutôt orientée en direction du sud-ouest. Le fleuve s'écoule en direction du sud-ouest ou de l'ouest-sud-ouest. Et puis à partir de Nantes, vers l'estuaire, elle s'infléchit très légèrement vers l'ouest-nord-ouest. L'influence se fait sentir essentiellement par le vent, qui a longtemps conditionné la navigation sur la Loire. Et donc on a, en particulier à Nantes, on a deux grandes directions dominantes à l'échelle de l'année, qui sont la provenance des vents du sud-ouest et puis provenance des vents de nord-est. Alors nord-est ne concerne pas directement cette navigation sur la Loire. Donc on peut considérer qu'on a, avec le rétrécissement de l'estuaire, une sorte d'entonnoir dans lequel les vents peuvent éventuellement se concentrer.
Historiquement, c'était les vents dominants, c'était les vents d'ouest. C'est ce qui a permis l'essor de la marine de Loire et ce qui a permis en fait que les bateaux remontent à la voile. Selon certaines informations que j'ai, on avait a priori, je parle de ça, 17e, 18e siècle, c'était vraiment l'apogée de la marine de Loire. On avait les vents dominants 200 jours par an à peu près. C'est ce qui permettait aux bateaux de remonter jusqu'à Orléans, parce qu'après Orléans, la Loire fait un coude et on ne peut plus utiliser le vent d'ouest. Mais en fait, les conditions climatiques changent et le vent d'ouest, on l'a. Je ne sais pas si c'est pas plus ou autant qu'avant, mais par exemple, je crois que l'année dernière, on a eu pas mal de vent d'est. On n'a pas énormément sorti la voile l'année dernière, alors que cette année, un peu plus. Souvent, le vent d'ouest est accompagné de pluie et il s'avère que cette année a été une année assez pluvieuse, donc on est content d'avoir de la pluie parce que qui dit vent d'ouest, très souvent dit pluie. Et donc, qui dit pluie dit voile.
Autrefois, les vents, ils étaient surtout de nord, nord-ouest, ouest, sud-ouest. Donc, c'était des vents portants pour les bateaux qui remontaient la Loire. Mais si par malchance, il y avait des vents contraires, ils attendaient que le vent tourne. Hein, ils n'avaient pas le choix. De toute façon, quand ils remontaient avec des convois de trains de 4-5 bateaux, chacun, dans les plus gros, chargé à 30 tonnes, vous savez, ils avaient un peu de halage dans certains coins, mais bon, c'était surtout le vent qui les faisait remonter. Ils attendaient quelques jours là où ils étaient pour que le vent tourne et de façon à continuer leur périple. C'est pour ça que on retrouve des fois dans certaines villes des vinaigreries, des choses comme ça, parce que le vin, donc en plein été, eh bien, il tournait, donc il le revendait non pas pour boire, mais pour faire du vinaigre. Il faut savoir que ces bateaux, c'est tout, hein, c'est des petits bateaux, donc c'est des bateaux de transport locaux. Ils n'allaient pas loin, ce n'est pas des bateaux qui remontaient à la Loire. Petit transport, parce que petit volume. Chez nous, on a des marées, donc marée descendante, marée montante. Donc on pouvait partir avec les avirons, parce que quand le bateau était chargé tout l'intérieur avec les animaux, on pouvait nager, on dit nager hein, avec des avirons, on pouvait nager à 4 rameurs sur l'avant du bateau et laisser tout le milieu du bateau pour mettre les animaux. Les dernières toues qui étaient construites fin du 19e siècle, elles étaient beaucoup plus grosses que les bateaux qui étaient construits au début du 18e siècle, parce que les besoins n'étaient pas les mêmes. En fin de compte, les charpentiers construisaient les bateaux en fonction des besoins des gens. Si les gens avaient besoin de transporter un petit volume, ils leur demandaient un petit bateau. Et au départ, on ne transportait pas les animaux dans notre région. Les îles, elles servaient juste pour la culture des roseaux. Le transport des animaux, c'est venu plus tard. Donc les toues ont changé, sont devenues plus longues, plus larges. Ils les ont adaptées pour pouvoir transporter des animaux et des roseaux et des foins. Il y avait le sel aussi, qui a été une grosse entreprise dans la navigation. C'était la seule façon de transporter les marchandises. C'est pour ça qu'il y avait plus de trafic. Et quand il n'y avait pas suffisamment d'eau, la navigation s'arrêtait. Carrément. Il n'y avait plus de trafic. Ils attendaient que les pluies viennent en septembre pour recommencer le trafic de navigation. Bon gaillard. À la descente, les bateaux n'utilisaient jamais la voile. À la descente, ils descendaient soit seuls, soit à couple. Et ils utilisaient seulement la force du courant. Donc ils n'étaient pas très manœuvrants, mais jamais la voile à la descente. Ça allait trop vite parce que vous avez le courant qui vous pousse, plus la voile, ça allait trop vite. C'était compliqué à faire les manœuvres, surtout que la Loire, il faut savoir qu'à cette époque, la Loire, elle était très encombrée. Il n'y avait pas que les mariniers. Il y avait aussi les meuniers, il y avait les pêcheurs, il y avait du monde sur la Loire. Hein. C'est pas comme aujourd'hui où il n'y a plus grand monde sur la Loire.
Donc là, du coup, je vais coudre en assemblant deux laits ensemble. Je m'appelle Marion Clément, je suis voilière sur les bords de Loire et je fais que des voiles de Loire, exclusivement. Hop. Nous sommes à l'atelier clandestine à Berthenay. Voilà, directement là où se fabriquent les voiles. Le lieu se situe du coup dans une grange au premier étage. Donc j'ai la chance d'avoir un espace très agréable et ouvert. Donc là, il y a un début de voile par terre, on va dire ça. Il y a un début de travail par terre d'une voile qui va se faire où j'ai coupé les laits. Puisque du coup, pour fabriquer en fait la voile, moi j'achète le tissu en rouleau. Et ensuite, je vais du coup couper les laits à la bonne longueur qu'il me faut. Et il va falloir que je les assemble les unes aux autres. Donc des fois, il y en a 3, 4, 5. Ça va dépendre en fait de la grosseur de la voile. Et après, il y aura dessus tout le travail où il faudra coudre les renforts, coudre la prise de riz, la ralingue, les œillets, etc. Donc c'est un travail qui va prendre en fonction de la taille des voiles entre 15 et 3 semaines, à peu près. Je fais de la voile carrée, donc vraiment la voile traditionnelle de Loire. Je ne fais que ces voiles-là, déjà parce que c'est ce qui me plaît. Enfin, la voile un peu traditionnelle, c'est l'objet en lui-même me plaît. Je fais aucune voile en fait à l'avance, je réponds que à des commandes. Chaque voile va être adaptée au bateau. C'est-à-dire que la voile est calculée vraiment en fonction de la taille de la coque, de la hauteur de mât, de la hauteur de bordée, etc. C'est du sur-mesure.
C'était Voile sur Loire, premier épisode. Avec Romane Picard, Patrick Leclève, la voilière Marion Clément et le géomorphologue Bruno Commental. Réalisation Aurélien Frances. Une production de Silence Podcast avec le soutien de la ville de Nantes.